Écoutez ce cours magistral de Bertrand Saint-Sernin sur deux grandes figures de la philosophie des sciences, Basile de Césarée et Grégoire de Nyssa.
Basile de Césarée et son frère Grégoire de Nyssa ont composé leur œuvre dans la seconde moitié du IVe siècle après Jésus-Christ. Issus d'une grande famille de médecins et hommes de science, ils se donnèrent pour but d'articuler la révélation chrétienne et la science de leur temps. Dans ses 9 homélies sur l'hexaéméron, les 6 jours de la création, Basile décrit les 6 jours de la création. Son livre, achevé, pense-t-on, en 370, fut traduit en latin par Eustathe à la fin du IVe siècle, et saint Augustin utilisa cette traduction dans Genesine ad Literam vers 401. Il fut aussi traduit en persan par les chrétiens nestoriens. L'ouvrage, au cours du Moyen-Âge, est cité par Isidore de Séville, Bède le Vénérable, Thomas d'Aquin, etc. Basile est un botaniste. Son dessein est de relier l'enseignement des Écritures et la science, c'est-à-dire la médecine de Galien. Il raisonne ainsi. Dans le livre de la Genèse, il est dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, la parole créatrice de Dieu, dit-il, devint comme une loi de la nature et demeura dans la terre, pour lui donner à l'avenir le pouvoir d'engendrer et de fructifier. Il est donc légitime de penser que l'esprit humain peut pénétrer au moins, dans une certaine mesure, les phénomènes naturels. Ainsi, Basile sait que beaucoup de plantes terrestres sont hermaphrodites, qu'elles ont, je le cite, à l'intérieur de leurs tiges et dans leurs racines, leur vertu séminale. Il n'ignore pas non plus que dans certaines plantes, les sexes sont séparés. Je le cite, « Les jardiniers divisent les palmiers en mâles et femelles, et l'on peut voir parfois celui qu'ils appellent femelle abaisser ses palmes comme sous l'empire d'un désir violent et convoiter l'embrassement du mâle. Ceux qui soignent ces arbres jettent sur ses palmes ce qui est comme la semence des mâles qu'on nomme le psène. » Les palmes sont alors comme si elles éprouvaient une sensation de jouissance, puis elles se relèvent et le feuillage de l'arbre reprend son aspect ordinaire. Basile ne fait que reprendre à 8 siècles de distance ce que disait Platon dans le Timée à propos de la sensibilité des plantes. Toutes les plantes, cependant, ne sont pas comestibles. Aussitôt nous furent livrées, avec les plantes comestibles, les nocives, avec le blé, la ciguë, avec les autres plantes nourricières, les lébores, l'aconite, la mandragore et le suc de pavot. Or, la perception ne suffit pas pour détecter les plantes dangereuses. Il y faut la raison et l'expérience. Donc, 3 éléments nous protègent contre les risques d'empoisonnement par les plantes : la raison, la médecine, l'expérience. Mais s'il y a des plantes nuisibles, c'est donc qu'il faut corriger la nature, puisqu'elle n'est pas ajustée aux besoins de l'homme. C'est le rôle de l'agriculture. Elle change les qualités des plantes, et dans le règne animal, tout non plus n'est pas parfait. Je le cite, « L'aigle est extrêmement injuste envers les petits qu'il doit élever. De 2 aiglons qui viennent d'éclore, il précipite l'un à terre et le repousse à coups d'aile. Il n'accepte que l'autre. Il le reconnaît, tandis qu'il rejette, parce que la nourriture est difficile à trouver, l'un des êtres qu'il a engendré. Agriculture, médecine et action pastorale mettent toutes trois en évidence que les productions spontanées de la nature ne sont pas toujours bonnes. Pour remédier à leur défectuosité naturelle, nous disposons de trois leviers. La raison, logos, la médecine, iatriké, les expériences sur la durée, ekronia peira. Ces instruments sont efficaces pour deux raisons. Parce qu'il y a des analogies profondes entre l'agriculture, la médecine et le soin des âmes, et parce que l'esprit humain, étant fait à la ressemblance de l'esprit divin, peut discerner le fonctionnement de la nature. Basile affirme à plusieurs reprises la similitude entre la médecine du corps et la médecine de l'âme, entre l'espérance de l'agriculteur et l'espérance du pasteur. « Pour toi, dit-il, sois comme un olivier fertile dans la maison du Seigneur. » Psaume 51, 10. « Ne te dépouille jamais de l'espérance, mais garde toujours par ta foi la parure verdoyante du salut. Ainsi, tu imiteras cet arbre toujours vert et tu rivaliseras avec sa fertilité par l'abondance des aumônes que tu donneras en tout temps. » Basile n'est pas seulement fidèle aux Écritures, il l'est aussi à Platon, qui, dans les lois, nous l'avons vu, dit que celui qui renonce à l'espérance se coupe de la vérité. Il y a un rapport immédiat entre les commandements de Dieu et les lois de la nature. La puissance créatrice de Dieu, qui s'exprime par un commandement, prostagma, se mue immédiatement en nature, fusis, et en raison industrieuse, logos en technos. Pour Basile, comme pour Aristote, les processus naturels sont aussi des opérations techniques, rationnelles, inhérentes à l'ordre vivant. Car la nature est l'atelier de la création divine. Basile s'interroge, n'allons-nous pas autour de ce grand et complexe atelier de la création divine, revenir chacun par la pensée vers le temps écoulé et porter nos regards sur l'organisation de l'univers. Quatrième homélie. Les processus naturels et la technique humaine coulent de la même source et conservent des traits analogues. Cette conception repose sur l'idée que dans des conditions données, il n'y a pas plusieurs manières d'aller vers un optimum. Grégoire de Nyssa, cependant, quand il reprend l'œuvre de son frère dans « La création de l'homme », fait observer que Dieu, les cinq premiers jours, jour entre guillemets, improvise, aposkediazetai, de sorte que la création du ciel, de la terre, des plantes, des animaux ne procède pas d'un plan mûri, alors que pour créer l'homme, Dieu planifie son action. Ce qui est une façon de suggérer qu'entre l'art de la nature et l'art humain, des différences existent, comme Antoine-Augustin Cournot, en 1838, dans ses recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, le mettra en évidence. Toutefois, pour Cournot, comme pour Basile et Grégoire, cette différence ne met pas en question la similitude de fond entre l'art de la nature et la technique de l'homme. L'expression « d'atelier de la création divine », quatrième homélie, est proche de celle qu'emploie Goethe le 2 août 1830 quand il confie à Eckermann à propos de la dispute entre Cuvier et Étienne Geoffroy Saint-Hilaire à l'Académie des sciences, je cite, « À partir de maintenant, en France aussi, dans l'exploration de la nature, on jettera des regards sur les grandes maximes de la création dans le mystérieux atelier de Dieu. »
Nous retrouvons sur Canal Académie le recteur Bertrand Saint-Cernin de l'Académie des sciences morales et politiques dans un brillant exposé sur deux grandes figures de la philosophie des sciences, Basile de Césarée et Grégoire de Nyssa.
Voyons maintenant comment Grégoire de Nyssa considère la raison. Tout d'abord, les pères cappadociens sont des lecteurs de Galien. Grégoire de Nyssa, dans la création de l'homme, poursuit l'œuvre de son frère Basile. Il veut lui aussi relier la révélation chrétienne à la science de son temps et notamment à Galien. Basile de Césarée et Grégoire de Nyssa lisent Galien avec attention. Et surtout, c'est sans doute pour eux l'essentiel, ils pénètrent sous sa conduite dans la fabrique de la création. Dans une religion où Dieu s'est incarné, il est essentiel de comprendre comment opère la raison industrieuse de Dieu. Pour y arriver, les techniques d'observation et d'expérimentation sont nécessaires. Or, Galien en a une grande maîtrise. En outre, pour des pasteurs des âmes, Galien offre un autre avantage. Il double ses recherches anatomiques et physiologiques de descriptions minutieuses tirées des œuvres classiques, Homère, Hésiode, Euripide, Thucydide, etc., et d'observations de la vie courante. Ainsi, pour analyser les rapports entre l'activité, énergeia, et les affections de l'âme, pathé, il prend l'exemple d'un attelage de deux chevaux, dont l'un part comme une flèche, entraînant son compagnon et forçant le cocher à suivre. Enfin, Galien ne disjoint pas l'étude de l'homme de celle des animaux et des plantes, puisque pour lui, comme pour Platon, les plantes étant des êtres vivants, disposent de la partie désirante de l'âme, to epitumeticon. Bien plus, leur étude nous fait mieux comprendre le système des artères, l'art avec lequel Galien embrasse dans une même investigation scientifique les plantes, les animaux et l'homme, s'accorde à la réflexion des pères grecs sur la création et s'accorde avec leur dessein de lancer un pont entre la révélation judéo-chrétienne et la science. Quelle est l'anthropologie de Grégoire de Nyssa? Dans la création, chapitre 3, Grégoire déclare « La puissance divine improvise, pour ainsi dire, la création ». Nous l'avons déjà dit. Pour la formation de l'homme, au contraire, une délibération précède et selon la description de l'Écriture, un plan est d'abord établi par le Créateur pour déterminer l'être à venir, sa nature, l'archétype dont il portera la ressemblance, sa fin, son genre d'activité et l'exercice de son pouvoir. Mais Grégoire s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'homme, même s'il est fabriqué d'après un plan, est moins bien loti que les autres animaux du point de vue des défenses naturelles. Il dit « Le lion, le porc, le tigre, la panthère et les autres animaux ont de quoi se sauver par eux-mêmes. Le taureau a des cornes, le lièvre la rapidité, la gazelle le saut et la sûreté du regard, d'autres ont la taille, d'autres une trompe, les oiseaux ont des ailes, l'abeille le dard. À tous, sans exception, la nature a donné un moyen de défense. L'homme, lui, est le moins rapide des coureurs. Parmi les animaux corpulents, il est le plus maigre. Parmi ceux qui ont des défenses naturelles, il est le plus aisé à prendre. Comment donc, dira-t-on, un tel être a-t-il en partage le premier rang dans l'univers ? Chapitre 7 de la création de l'homme. La réponse de Grégoire est nette. Ces insuffisances naturelles ont conduit l'homme à domestiquer le cheval, à tisser la laine des brebis pour se vêtir, à utiliser le bœuf pour les labours, etc. Autrement dit, l'intelligence et la technique ont assuré sa supériorité sur les animaux, y compris pour la chasse. En particulier, l'ingéniosité de son art donne des ailes aux flèches et par l'arc tourne à notre avantage la rapidité de l'oiseau. À la fin du livre, Grégoire reprend l'expression « atelier de la nature » qui indique, nous l'avons vu, une analogie, peut-être une identité, entre l'art de l'humanité et l'art de la nature. En un mot, il n'y a pas de différence fondamentale entre les opérations de la nature et les techniques humaines, leurs procédés se rejoignent. De même, la médecine du corps et celle de l'âme visent à corriger la nature. Grégoire évoque un souvenir personnel de sa vie de médecin à propos d'un malade souffrant de phrénitis, c'est-à-dire de délire. Je cite, « Il criait, blâmait les assistants d'avoir rempli ses intestins de fumier », chapitre 13. Il rattache les rêves aux dispositions du corps et aux types de maladies. « Il y a des rêves, dit-il, des malades de l'estomac, ceux des malades des méninges, ceux des fiévreux, ceux des bilieux. » Et conclut, « Ces exemples font voir que dans la partie de l'âme occupée à la nourriture et à l'accroissement, l'union de l'âme et du corps maintient des germes d'activité spirituelle plus ou moins conformes à notre état physique et met en harmonie les imaginations de l'esprit avec les dispositions dominantes du corps. Les rêves reflètent le genre de vie et la morale du rêveur. Je cite, « Chez beaucoup aussi, la nature des rêves dépend du genre de leurs mœurs. Un homme courageux n'a pas les mêmes rêves qu'un lâche, l'intempérant que le sage. L'homme généreux voit une chose en songe, l'avare en voit une autre. » À côté de la machinerie psychique du rêve, on découvre exceptionnellement, comme chez Jung, plus tard, quelques rêves prophétiques rapportés par l'Écriture.
Sur Canal Académie, Bertrand Saint-Cernin, professeur de philosophie et grand spécialiste de l'histoire des sciences, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, offre aux auditeurs de Canal Académie un cours magistral sur deux philosophes des sciences qui n'eurent de cesse, comme va continuer de nous l'expliquer le recteur Bertrand Saint-Cernin, de conjuguer la révélation chrétienne avec la science de leur temps.
Quand Grégoire commente le livre de la Genèse, il souligne que l'image de Dieu, ce n'est pas l'individu, mais l'humanité entière dans son ensemble et son histoire. Quand l'Écriture dit « Dieu créa l'homme », par l'indétermination de cette formule, elle désigne toute l'humanité, chapitre 16. Grégoire complète ce jugement en disant que l'intelligence humaine reste stable à travers l'histoire. Il n'y a pas, dit-il, de différence entre l'homme qui est apparu lors du premier établissement du monde et celui qui naîtra lors de l'achèvement du tout. Tous portent également l'image divine. Chapitre 16. Pour Grégoire, l'Esprit de Dieu, qui permet aux hommes d'avoir l'intelligence de la nature, habite semblablement chez tous, et tous peuvent exercer leur pensée, leur décision, parce que cette pensée et ces décisions sont à l'image de la pensée et des décisions que Dieu pourrait prendre. Par exemple, les techniques qu'emploie Dieu pour créer et entretenir le monde ne sont pas opaques. Le programme d'une science qui finirait par entrer dans l'atelier de la création divine n'est ni utopique ni hérétique, elle est au contraire fidèles à la révélation et à la raison. Les pères cappadociens reprennent à leur compte la conception de la science du Timée et donnent sa base au rationalisme chrétien. Dans leur esprit, le programme de la science n'est pas à la portée de l'individu, c'est la tâche de l'humanité entière. En revanche, pour eux, comme pour la tradition juive, l'individu joue son sort en une seule partie, non à travers des existences successives. Même si la métempsychose a été défendue par Platon et une partie de sa postérité, elle est rejetée par Grégoire d'un revers de main. Toutes ces conceptions, dit-il, tenant qu'une âme unique passe par ces divers états, sont dignes du bavardage des grenouilles ou des geais, de l'inintelligence des poissons ou de l'insensibilité des chênes. Chapitre 28. C'est que l'intelligence est individuée. Ce n'est pas un intellect impersonnel, mais un esprit logé dans une âme et dans un corps, d'où la nécessité d'en comprendre la génération et la conception. Pour Grégoire, en effet, l'âme et le corps sont créés en même temps. Je cite « Même si l'âme ne se manifeste pas au grand jour par certaines activités, elle n'en est pas moins présente dans l'embryon. En effet, la configuration de l'homme à venir y est déjà en puissance, mais l'âme est encore cachée, puisqu'elle ne peut se manifester que selon l'ordre nécessaire. Ainsi, elle est présente, mais invisible, elle ne paraîtra que grâce à l'exercice de son activité naturelle en accompagnant le corps. » Chapitre 29. Dès sa formation, l'âme se construit pour elle-même ou encore dans la vie embryonnaire, je cite, « les activités de l'âme se développent en corrélation avec la formation et le perfectionnement du corps qui la reçoit. » Selon les croyances médicales de l'époque, Grégoire pense que les parties de l'âme apparaissent au fur et à mesure de la gestation. Au temps de la première formation, dit-il, comme dans une racine cachée en terre, seule apparaît la force d'accroissement et de nutrition. Chapitre 29. La fin de la création de l'homme, chapitre 30, résume les connaissances biologiques et médicales de l'auteur. Il se passe encore en nous un phénomène semblable à ce qui a lieu dans l'agriculture quand de grosses pluies ou la crue des rivières rendent les champs tout humides, chapitre 30, à savoir que chaque plante en particulier transforme cette humidité en des qualités différentes. Imaginez, dit-il, pour l'âme, un pareil processus et vous ne serez pas loin de la vérité. Il y a pour Grégoire une analogie profonde entre l'agriculteur, le médecin et le pasteur des âmes, car les méthodes d'éducation ou de correction des défauts naturels, des minéraux, des plantes et des animaux se ressemblent. Il écrit « De même que dans le travail de la pierre, il y a un moment où l'idée se dégage, d'abord obscurément, puis d'une façon parfaite après l'achèvement de l'œuvre, de la même façon aussi, dans le modelage de notre être, l'idéal que l'âme doit réaliser ne se fait jour qu'avec le progrès du corps, imparfaitement dans le corps imparfait, parfaitement dans le corps parfait. » Dans sa vie de Moïse, comme dans la création de l'homme, Grégoire explore l'énigme juive et chrétienne. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé directement des êtres conformes à leur essence? Pourquoi Dieu procède-t-il par ébauche? Et pourquoi l'humanité se construit-elle à travers son histoire? Le thème central de l'œuvre de Grégoire et de l'œuvre de son frère Basile, c'est que dans la nature inorganique, vivante et spirituelle, rien n'atteint d'emblée sa perfection, tout suit un développement temporel. Grégoire cite le mot de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens : « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Du Timée de Platon à l'Hexaéméron de Basile et à la création de l'homme de Grégoire, nous changeons de conception du monde. La perfection cyclique du modèle astronomique du Timée cède la place à un devenir historique, à la fois choix de Dieu et responsabilité de l'homme. Pourtant, malgré ces différences profondes entre Platon et les pères chrétiens, la pensée grecque, au cours des siècles, s'incorpore à la tradition chrétienne, au point que la naissance de la science moderne apparaît aux contemporains comme la réalisation du programme arithmétique et géométrique de Platon. Nous avons vu la science des pères cappadociens, disons un mot, des rapports entre leur philosophie et leur théologie. Nous abordons ici deux questions. Quelles conséquences ont eu pour la connaissance scientifique l'introduction d'un troisième genre de lettres? En second lieu, dans quelle mesure la réflexion sur le troisième genre de lettres a-t-elle conduit la théologie chrétienne à attribuer à Dieu trois personnes, c'est-à-dire trois visages, prosopa en grec? Le troisième genre de l'être, dit Platon dans le Timée, n'est pas un objet. L'intellect ne parvient pas à le saisir. Il n'est perceptible qu'à une sorte de raisonnement hybride que n'accompagne point la sensation. 52b. On a du mal à y croire. On n'arrive ni à le concevoir, ni à se le figurer, et pourtant, malgré son inaccessibilité, ce troisième genre de l'être est réel. Il n'est ni pensé, ni contemplé, mais touché, hapton. 52b. Cette entité étrange que nous approchons, dit le Timée, dans une sorte d'état de rêve, comme un fantôme changeant, 52c, et dont pourtant l'existence est incontestable, constitue une énigme, d'où sa double carrière scientifique et théologique. En science, le troisième genre de l'être prend au fil des siècles divers aspects. Dans la théologie chrétienne, il remplit deux offices, assurer que par une sorte de nécessité intellectuelle, Dieu prend trois visages. En second lieu, garder à cette nécessité le caractère d'un mystère. Les historiens du christianisme affirment que la mise au point par les pères grecs du dogme de la Trinité a bénéficié de l'apport du Timée. On raconte aussi que Abélard, au XIIe siècle, eut à ce sujet des difficultés. Un de ses étudiants, en effet, déclara que la Trinité n'était pas un mystère, car Maître Abélard avait montré comment le Saint-Esprit était comme le troisième genre de l'être du Timée. Les choses allèrent si loin qu'Abélard dut se rétracter et on a le texte de sa rétractation. Si Basile et Grégoire s'inspirèrent du Timée dans leur vision de la Trinité, ils eurent en revanche la prudence de ne pas en souffler mot, si bien que l'influence de Platon, si réelle soit-elle, ne transparaît pas de façon explicite dans cette partie de leur œuvre.